3 sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravi de terminer cette semaine ensoleillée à vos côtés. Avec moi pour écouter vos expériences de vie, ma camarade Ombline. Bonjour ma chère.
Bonjour, bonjour Olivier,
comment
bonjour
allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ici, comme vous le savez, on parle de ce que vous vivez, de ce qui vous préoccupe et de tous les sujets, car votre vécu nous intéresse. Il y a certaines pratiques sexuelles qu'on feint d'ignorer ou dont on préfère ne pas parler, car qui dit sexe dit bien souvent tabou. Par peur d'être jugé, mal compris, parce qu'il s'agit de notre intimité, parce que la morale n'est jamais bien loin, il est difficile d'aborder certains aspects de la sexualité. Pourtant, les pratiques et les plaisirs sont nombreux. Le BDSM, pour bondage, discipline, sadomasochisme, qui consiste à prendre son plaisir à travers la douleur, à travers la domination, mais aussi d'autres pratiques particulières, comme le libertinage, comme avoir un langage assez cru lors de l'acte sexuel. Alors, comment exprimer ses envies? Les clichés sont-ils nombreux? Qu'est-ce que cela dit de nous et de notre société? Tabou du sexe, comment en parler? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Vos témoignages au standard Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute. Pour nous écrire, nous poser vos questions aussi, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Alex sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Alex.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Alex?
Alors, j'ai 42 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, avec vous, Alex, on va aborder une pratique assez taboue qui s'appelle le BDSM. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce que c'est qu'est exactement le BDSM?
Alors, le BDSM, c'est un acronyme et ça regroupe différentes pratiques. Donc, le bondage pour le B, la domination-soumission pour la partie BS et le sadomasochisme pour la partie SM.
C'est un monde que l'on fantasme beaucoup, en tout cas que certains fantasment beaucoup, qui a son lot de clichés. Vous en aviez aussi avant de rentrer dans ce monde?
Oui, j'en avais pas mal. Hein. J'étais un petit peu comme tout le monde imagine. Donc le côté pantalon en cuir, gilet en cuir, casquette en cuir, la moustache, la cravache dans la main.
Oui.
Ou un peu plus récemment, typiquement la gimp dans Pulp Fiction. Donc le côté combi total en latex et cagoule en latex.
Oui.
Donc j'avais un peu ce genre de cliché en tête, effectivement. Ouais.
Et alors, comment y êtes-vous arrivé dans ce milieu?
Alors en fait, moi j'ai commencé à prendre des cours de Shibari, donc c'est du bondage japonais traditionnel.
Oui.
Et j'ai commencé le BDSM un petit peu à la même période en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les cours de l'époque étaient donnés dans un club, dans le fun club BDSM parisien qui est Chuchotement.
Oui.
Et du coup, je me suis retrouvé à rentrer dans un club pour la première fois pour apprendre le bondage japonais. Et ça m'a permis un petit peu de découvrir les lieux sans appréhension, de manière un peu plus détendue que si j'avais ouvert les portes du club pour la première fois pour une soirée.
Qu'est-ce que vous sentez que ce que vous avez, vous, éprouvé les premières fois lorsque vous avez pratiqué et qu'aujourd'hui vos élèves ressentent sans doute? On vient chercher quoi dans le bondage exactement?
Alors dans le bondage, on vient chercher... Alors il y a différentes pistes, la plupart du temps, ce qui me revient souvent, c'est le côté esthétisme, l'esthétique du bondage japonais, on trouve ça très beau, on a envie de reproduire un petit peu ce qu'on voit en photo. La deuxième chose qui vient tout de suite après, c'est le lâcher-prise. C'est
vraiment le lâcher-prise, oui.
Ouais. Le lâcher-prise, se laisser aller, et vraiment ne plus avoir à réfléchir, c'est vraiment les deux choses qu'on vient chercher quand on apprend le shibari.
Est-ce qu'on peut comparer ça à la méditation, là où certains restent immobiles, vident leur cerveau? Est-ce qu'on ressent le même type de sensation?
Alors, ça s'en rapproche. C'est vrai que récemment, parce que le shibari s'est vraiment développé ces dernières années, ces 3-4 dernières années, ça s'en rapproche, on est quand même loin de ça. Hein. On va plutôt être, comme quand on fait un effort physique long, si on va courir pendant une dizaine de kilomètres ou autre, on a vraiment ce côté... C'est dur, ça fait mal, mais ça fait du bien, on a l'esprit qui s'évade, on se laisse aller. Ça ne sera pas aussi doux et aussi reposant qu'une méditation.
Oui.
Par contre, on a vraiment ce côté, on rationalise plus vraiment, mais dans la sensation, et on se laisse aller complètement.
Qu'est-ce qu'il y a de sexuel, en fait, dans tout ce que vous me décrivez? Parce que j'ai l'impression que la petite note sexuelle qu'on peut y rajouter, c'est selon l'envie ou pas.
C'est exactement ça, mais c'est selon l'envie. Après, le shibari est quand même très sensuel. On est obligé de toucher la partenaire ou la personne qu'on attache. On va être proche d'elle. Et pour le shibari, le bondage, quand même, en général, on va chercher à exposer la personne, à la priver de la capacité de se cacher. Du coup, on va quand même jouer sur la honte, sur ce côté de... Voilà, je, quelqu'un me montre, je n'ai pas vraiment envie, mais on m'oblige à m'exposer. Et du coup, la sensualité est vraiment un fleur de peau et se fait sentir à ce moment-là.
Quoi. Oui, c'est à ce moment-là que la sensualité se dégage, en fait.
Voilà, c'est ça. Mais après, c'est pareil pour le BDSM, les autres pratiques. Après, c'est vraiment en fonction de chaque pratiquant. Il n'y a pas de règles préétablies, de règles imposées. Chacun définit son cadre de jeu, la manière dont il veut pratiquer. Et après, voilà, trouve son plaisir de cette manière.
Dans ce milieu, en fait, on a du mal à y rentrer ou c'est un milieu assez accueillant, finalement?
C'est extrêmement accueillant. En fait, on pense que c'est un milieu fermé, mais c'est les personnes qui veulent y entrer qui ferment elles-mêmes la porte. C'est très bienveillant, c'est très accueillant. On est des personnes comme tout le monde, au final. Rentrer dans un club, c'est pas se retrouver au milieu de personnes en cuir, on a quatre pattes en latex, ça
ouais,
arrive,
ouais, ouais.
C'est souvent le cas, mais les personnes sont juste là pour échanger, pour discuter, pour pratiquer, et il n'y a vraiment aucun jugement en fait. Quand on arrive dans un club, la plupart du temps on est bien accueilli, on nous explique un petit peu comment ça se passe, ouais. Comment il faut se comporter, et les gens sont plutôt très sympas et très, très ouverts.
Alors, je sais.
Ils sont toujours prêts à expliquer un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et mettre les gens à l'aise.
Alors, je sais, Alex, que vous pratiquez et vous avez créé ces ateliers autour de cette pratique avec votre compagne. Vous, dans votre relation à vous deux aujourd'hui, vous pratiquez aussi le BDSM, le bondage notamment. Est-ce que c'est plus votre compagne que vous attachez ou est-ce que tous les deux vous pratiquez à tour de rôle?
Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on organise des ateliers au Kinky Club tous les vendredis après-midi, où on explique vraiment un petit peu les pratiques, les règles de sécurité et de consentement, parce que ça, c'est vraiment primordial.
Ouais.
Après, dans notre pratique à tous les deux en couple, ce qui est assez particulier, c'est qu'on est tous les deux dominants, donc on est plutôt à donner que recevoir.
Ouais.
On attache tous les deux différents partenaires, que ce soit des filles ou des garçons. Elle ou moi, on n'est vraiment pas, il n'y a pas de notion de genre. Et elle me permet de l'attacher malgré tout, vu qu'on s'est rencontrés quand même dans les cordes où elle m'avait demandé de l'attacher tout au début. Mais maintenant, on n'est plus attachés tous les deux, soit en même temps, soit chacun de son côté.
Mmh, vous êtes attachés par l'amour déjà,
la première chose.
Vous restez en ligne avec nous, Alex. Nous allons continuer à discuter ensemble du BDSM et parler de ces ateliers et nous expliquer aussi comment on amène quelqu'un à avoir envie de se soumettre et comment... Surtout bien le faire. À tout de suite.
Europe 1.
On parle des tabous du sexe, comment s'en libérer, comment en parler dans le couple et ailleurs. Vous nous le dites, vous témoignez au 39-21, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
La douleur devient un plaisir, Chandriana. La douleur, la domination qui font partie intégrante de la pratique BDSM, bondage, discipline, sadomasochisme. On parle des tabous du sexe avec vous au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Alex qui nous expliquait donner des cours depuis 3 ans de bondage. Et je trouvais assez intéressant, Alex, dans votre explication, lorsque vous soulignez l'envie de donner à quelqu'un de s'exposer. En tout cas, est-ce qu'il y a un côté... amener quelqu'un à assumer cette position de soumission?
Pas vraiment amener quelqu'un à l'assumer. En tous les cas, on va répondre à une demande qui est souvent latente. On ne peut jamais imposer en tant que top, en tant que personne qui domine.
Oui.
On n'impose jamais les choses. On va répondre à une demande, tout simplement.
Oui.
C'est vraiment la personne qui est soumise ou qui est bottom, on utilise souvent ce terme, qui va offrir au dominant la possibilité de la dominer. Donc c'est toujours la personne qui est soumise qui a le pouvoir au final. Uh-huh.
Je sais que vous travaillez aussi beaucoup sur la notion de consentement. Hein. Cela fait partie des clichés qui peuvent subsister autour du BDSM.
Ouais, c'est vrai que c'est un gros cliché où on pense que parce qu'on est maître, parce qu'on domine, on a tous les droits et on fait tout ce qu'on veut.
Oui.
Alors ça, c'est vraiment une idée reçue, c'est complètement faux et c'est tout l'inverse qui se passe. C'est une personne qui a envie de se faire dominer, qui va donner la possibilité à un top, à un dominant, de réaliser des choses pour lui faire plaisir, toujours pour lui faire plaisir et toujours dans un cadre qui a été convenu en amont, avant même de commencer à jouer. On va définir des pratiques, de l'intensité et des mots d'arrêt, des mots où on dit voilà, quand on dit stop, c'est stop, il n'y aura rien qui se passera avant, c'est pas stop dans 3 minutes ou dans 5 minutes, c'est immédiat. Donc on a cette demande, Et nous, derrière, on va faire en sorte d'aider la personne qui a cette demande, qui a ses envies, et de les vivre et de se sentir bien, à l'aise, et de pouvoir les vivre à fond et vraiment retirer beaucoup de plaisir.
Une fois le consentement acquis, ma question va peut-être vous paraître naïve, mais qu'est-ce que l'on va chercher dans la soumission ? Quel type de sentiment va-t-on chercher dans la soumission ?
La soumission, ça va vraiment être de donner le contrôle à quelqu'un, en fait. C'est un échange de pouvoir qui se fait.
Oui.
C'est comme si on donnait les clés de la voiture. Voilà. Maintenant, c'est toi qui conduis, c'est toi qui va faire la route. Et moi, je vais juste suivre, me laisser guider, me laisser aller. Quand on a envie de se soumettre, on n'a plus envie de réfléchir. On a envie d'être pris en main, on a envie d'être guidé, d'être amené vers des sensations, vers des situations. C'est extrêmement cérébral. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le BDSM, que ce soit le Shibari ou toutes les autres parties, c'est énormément de choses qui se passent dans la tête. Des fantasmes, des idées, des choses qui se passent, et c'est ça qui donne toute cette dimension aussi intéressante. On n'est vraiment plus dans le sexe pour le sexe, on est dans tout ce qui se passe dans la tête et qui est tellement, tellement fort et puissant.
Ouais, ouais, et qui est tellement immense. Hein. Oui, si absolument. On commence à vouloir tout expliquer, il est certain que ça peut être compliqué. Selon vous, Alex, en France, il y a trop peu d'éducation sexuelle. On nous apprend peu à prendre son plaisir.
Ouais. Oui, oui, vraiment, je le remarque à chaque fois avec toutes les personnes avec qui toutes les personnes avec qui je peux rencontrer pour des sessions de cordes ou autres. Le plaisir, d'une manière générale, est vraiment, vraiment pas assez abordé, pas assez expliqué. Le plaisir féminin en particulier aussi, c'est quelque chose de très subtil.
Oui.
Et vraiment, il y a plein de personnes qui passent à côté de choses formidables parce qu'on leur a pas expliqué, parce qu'on n'a pas expliqué aux garçons aussi à sentir le corps d'une femme, à pouvoir le caresser, ou à lui faire ressentir du plaisir. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très dommage. En plus, avec la culture du porno actuellement,
qui abîme beaucoup l'image de la sexualité en règle générale, notamment les adolescents qui apprennent qui font plus leur éducation sur le net et à travers ces sites porno plutôt que d'apprendre des choses comme celle-ci. Tout ce qui n'est pas dans les normes, alors entre guillemets, est potentiellement bizarre dans les pratiques sexuelles.
Alors oui et non, ça va vraiment dépendre des générations. Pour les jeunes justement qui sont à regarder du porno très régulièrement, les filles comme garçons, il n'y a plus vraiment de choses bizarres ou de choses étranges ou pas dans les normes au final. Et c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus ouverts à différents types de pratiques.
Oui.
Par contre, ils vont être des pratiques via du spectacle. Le porno, c'est un spectacle, c'est des acteurs. Et du coup, ils ne vont pas avoir les bons réflexes et les bonnes notions. Pour les personnes d'une génération un peu plus élevée, effectivement, dès qu'on sort de la sexualité classique qu'on appelle vanille, pour nous les personnes qui pratiquent le BDSM, effectivement, dès qu'on sort de la pénétration en missionnaire, on se retrouve dans des choses bizarres. Je pense que vraiment ce qui manque actuellement, c'est de la cérébralité, c'est de la sensualité, ce sont ressentir l'autre, ressentir son énergie, et pouvoir faire des choses en fonction de l'énergie qu'on ressent.
Ce qui devrait être, vous avez raison, totalement raison, au cœur de toute relation sexuelle, sentir l'autre et connaître la subtilité du plaisir de l'autre. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, le BDSM est moins méconnu et du coup moins tabou, Alex ?
Oui, c'est effectivement ce que je ressens. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui font vraiment des grandes recherches sur Internet, qui vont visiter plein de sites, lire plein de livres aussi. Il y a pas mal de choses qui se font, des choses très bien qui se font à ce niveau-là. Et on a des personnes beaucoup plus jeunes, en fait, qui veulent découvrir le BDSM, qui veulent découvrir ce monde, qui viennent avec des a priori qui sont beaucoup moins forts que les générations précédentes, et qui, au final, s'y retrouvent bien et sont ravis de pouvoir pratiquer en fait des choses un petit peu hors normes, en tous les cas par rapport à ce qu'ils faisaient avant, et qui trouvent un plaisir très fort là-dedans. Donc oui, il y a une vraie volonté en fait de sortir des clichés de la sexualité.
Cet après-midi, en tout cas, on en aura appris un peu plus grâce à vous, Alex, sur le BDSM. Mille merci pour votre intervention cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Alex.
Merci à vous.
Dans quelques instants, nous serons avec Nathalie Giraud-Desforges. Elle est sexothérapeute et thérapeute du couple.
Europe 1.
Comment se laisser aller à d'autres pratiques pour enrichir sa vie sexuelle et en parler sans choquer le 39-21 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Écoutez. discuter et vous échanger avec Olivier Delacroix. Au 39-21, nous parlons des tabous du sexe. Comment en parler justement, comment s'en libérer de ces tabous? Vous témoignez et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et pour parler de cette morale, de ces limites, de ces tabous, nous sommes maintenant en ligne avec Nathalie Giraud-Desforges, qui est sexothérapeute et thérapeute de couple. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe.
Nathalie Giraud-Desforges, le sexe est tabou de manière générale, mais pourquoi certaines pratiques choquent plus que d'autres ou carrément gênent ?
D'abord, dans le mot tabou, ça vient de l'étymologie, c'est tapou. Et tapou en Polynésie française, c'est ce qui est interdit. Ce qui est interdit n'existe pas, voire même, lorsque c'est transgressé, amène une, par exemple une malédiction ou amène une, quelque chose qui va arriver à la personne qui transgresse cet interdit. Ouais. Donc le tabou, c'est ce qui ne rentre pas dans le cadre, c'est ce qui n'est pas aussi nommé. Donc ce qui n'est pas nommé, peut-être n'existe pas. Et sur ce qui n'existe pas, on peut se faire toute une idée de ce qui n'existe pas ou une idée qui peut être pervertie, dans laquelle il peut y avoir des préjugés. Donc on juge avant de savoir, puisque oui, par essence, ça n'existe pas. Ou ce n'est pas transmis. Donc de fait, les pratiques ne sont pas vraiment connues et cristallise autour d'elle des ignorances, cristallise autour d'elle des on-dit, ou peut-être que ça va se passer comme ça, mais parce qu'il y a à la base une profonde méconnaissance de la pratique. Donc elle est jugée avant d'être connue.
Est-ce qu'on peut parler d'un manque d'éducation sexuelle, de manque d'ouverture d'esprit sur la question, à la maison notamment, avec les parents ?
Alors, manque d'éducation sexuelle complètement. Manque d'ouverture d'esprit, c'est quel est le risque d'avoir une ouverture d'esprit ? L'enfant, par exemple, peut poser des tas de questions. Oui. Généralement, il pose des tas de questions. Et suivant la réaction des adultes, puisque l'enfant il pose des questions à l'adulte, il va se construire une idée de ce que peut être peut-être quelque chose qui est pas bon, pas juste, pas moral. Oui. Il voit la réaction des adultes aussi. Donc, il va se forger une idée de ce qui est, ce qui peut être ouvert ou de ce qui peut être fermé. Donc, plutôt qu'une... moi, je dirais le manque de curiosité vient de quelque chose qui a été inculqué par l'éducation, par l'endroit où on vit, par la société, par l'environnement dans lequel l'individu baigne et a grandi.
Alors, on écoutait Alex dans le début de cette émission qui nous parlait de BDSM et de ses ateliers qu'il avait créés avec sa compagne qui avait pour but de moderniser cette pratique. Les clichés viennent-ils d'une certaine méconnaissance pour vous ?
Complètement. C'est-à-dire que d'abord, si vous posez la question du BDSM, la plupart des personnes ne sauront pas ce que ça veut dire. Et puis après, c'est comme tout, par exemple, 50 nuances de Grey a fait énormément pour démocratiser ou déculpabiliser des jeux. Oui. Là, on est vraiment dans des pratiques qui sont très spécifiques. Maintenant, qui amènent à un certain type de lâcher prise, à des codes qui sont très spécifiques et qui ne se mettent en place que pour un très petit pourcentage de la population. Autrement, tout ce qui concerne être menotté, ce qui concerne mettre un bandeau sur les yeux, une certaine forme de soumission, eh bien, par exemple, le 50 nuances de Grey a permis à beaucoup de femmes, en particulier, de rentrer dans des jeux sur lesquels un poids qui était « je ne peux pas faire ça parce que si je le fais à ce moment-là, je serai... » il y a tout des tas de qualificatifs qui se mettent sur la personne et ses pratiques. Oui. Et donc, ont permis de, à la limite, normaliser. C'est-à-dire, on a créé une nouvelle norme qui serait celle du jeu et celle d'une curiosité d'essayer au jeu. Moi, ce que j'appelle une sexualité de jeu sans enjeu, en fait.
Et c'est comme cela, à votre avis, qu'il faut en parler à son partenaire, lui parler de jeu pour justement alléger un petit peu la conversation et rentrer dans le vif du sujet ?
Tout dépend de la grammaire amoureuse du couple. Si la grammaire amoureuse du couple n'est pas ludique, parler de jeu, ça va être un langage d'extraterrestre, presque. Oui. Donc, c'est trouver le code dans le couple. Si le couple est à vertu, je dirais, parentale et reproductive, franchement, parler de jeu, ça peut peut-être pas du tout les intéresser.
Oui. Alors, comment parler si on ne parle pas de jeu ?
Vérifier, dire, tiens, regarde, j'ai lu un truc, ou tiens, j'ai entendu, avec une émission comme la vôtre, par exemple, tiens, j'ai entendu parler de BDSM, souvent ça va être de quoi ? Donc ça va renvoyer à voilà ce que j'ai compris de cette pratique. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc c'est poser des questions à l'autre pour vérifier tâter le terrain. Autant ne pas s'aventurer sur un terrain miné, ce serait se faire du mal. C'est exactement comme ça. C'est dans ce dialogue qui est de questions-réponses. Et qui est, écoute, as-tu entendu parler de qu'est-ce que t'en penses ? Viens, on va voir un film qui parle de telle et telle pratique. C'est laisser traîner aux toilettes, d'ailleurs, ou sous la table de chevet, une revue, par exemple, ouverte ou bien écornée, en espérant que l'autre va capter le message. Ça peut passer aussi par là.
Vous restez en ligne avec nous, Nathalie Giraud-Desforges. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et thérapeute de couple. Dans quelques instants, nous saurons avec Sophie, jusqu'à ses 18 ans, la sexualité, mais aussi son propre plaisir, ont été très tabous, voire inexistants.
Europe 1.
Vous aimeriez réaliser un fantasme, mais vous ne savez pas comment aborder le sujet. Vous avez réussi à pimenter la vie intime de votre couple grâce à certaines pratiques sexuelles. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. On parle des tabous du sexe. Votre sexualité s'est libérée. A-t-elle resserré les liens de votre couple, relancé le désir ? Comment en parler ? On continue de vous écouter sur Europe 1. Et voici Cadet Bostani avec Mind If I Stay. Mind If I Stay sur Europe 1. Vous avez enrichi votre vie intime avec des pratiques sexuelles cataloguées comme tabous. Comment laisser s'exprimer pleinement sa libido sans peur d'être jugé ? Comment en parler ? Vous témoignez au 39-21. Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour en parler, nous sommes en ligne maintenant avec Sophie. Bonjour Sophie, soyez la bienvenue. Bonjour. Sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Sophie ?
Alors là, actuellement, j'ai 24 ans et j'appelle donc à côté de Bourgoin-Jallieu, dans le 38.
D'accord. Hiver. Alors Sophie, la sexualité a toujours été tabou dans votre famille. On n'en parlait pas, on faisait comme si cela n'existait pas. Si bien qu'à vos 18 ans, vous n'aviez jamais eu d'orgasme et jamais exploré même votre propre corps. C'est en visionnant un documentaire que vous avez eu un déclic. Racontez-moi quel documentaire et à quel moment exactement ?
Alors oui, donc à 18 ans, j'avais déjà eu des relations, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes sexuellement.
Oui.
À ce moment-là, j'étais en couple avec un homme qui adorait justement les documentaires et m'a fait découvrir le film du coup de Frédéric Baraja qui s'appelle Les Branleuses. Justement, qui parle de la masturbation féminine, du tabou justement de ce sujet-là. Et à la fin de ce documentaire, j'ai vraiment eu, un déclic. J'ai fait, non mais je n'ai jamais connu ça, je n'ai jamais pratiqué ça, je n'ai jamais eu d'orgasme. Comment ça se fait ? J'ai demandé à mon ami de l'époque, aide-moi à découvrir ça, voilà.
Et ce film, Les Branleuses, en fait, il évoque quoi exactement, ce documentaire ?
Alors, c'est tout simplement Frédéric Baraja, donc là, qui est photographe, qui du coup explique que la masturbation féminine était pour elle un tabou, même voire inexistante de son côté. Du coup, elle va interroger d'ici et là justement ses amis, des sexologues, des personnes justement concernant la masturbation féminine, un peu de tout, la fréquence, comment. Des fois, il y a vraiment sur le thème de l'humour, justement, avec ses amis, autour d'un verre dans le sud. C'est très jovial et on sent vraiment que le tabou n'est pas présent dans le documentaire, mais on voit que d'un côté, chez elle, il l'a été et elle le découvre aussi par la suite.
Comment vous expliquez que personne ne vous ait parlé avant de sexualité, échanger avec vous sur cela? On en parle avec des copines quand on n'en parle pas avec ses parents?
Ben, je vais dire oui, on en parle avec ses amis, mais on pouvait parler de nos relations sexuelles librement entre amis sans aucun problème, mais de la masturbation féminine en elle-même, j'en avais jamais entendu parler, ni même parler avec mes amis à l'époque.
Oui.
Donc c'était vraiment un sujet vraiment qu'on n'abordait pas, enfin à l'époque pour moi, parce que maintenant c'est un sujet, je ne vais pas dire tous les jours, mais auquel j'aborde très souvent, parce que je trouve ça très important. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est vrai que moi, j'ai toujours été une enfant très solitaire quand j'étais chez mes parents. Donc, je n'ai pas eu forcément de conversation avec eux justement sur la sexualité en elle-même, dont du coup la masturbation. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un frein là-dessus. Et voilà, mais c'est vrai que même par le biais de mes amis, on n'en parlait pas.
Alors aujourd'hui, vous voulez développer un projet qui s'appelle One Kit Girl, un ouvrage avec des témoignages de femmes qui explorent leur propre plaisir, leur sexualité. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, on va en parler. Mais vous évoquez dans votre témoignage aussi le fait que vous en avez parlé autour de vous lorsque vous avez eu ce déclic. Et vous avez senti que vous étiez confronté à une certaine forme de dégoût. Vous avez même eu des remarques à l'époque. Lesquelles, racontez-moi.
Bah, des remarques dans le sens où justement c'est quelque chose de l'ordre de l'intime dont on ne parle pas.
Oui.
Donc pourquoi en parler avec toi ou avec vous, sachant que non, c'est vraiment voilà un sujet tabou. C'est de l'ordre de l'intime. Vraiment la réponse que j'ai eue c'était une question d'intimité, donc on n'en parlait pas.
Et c'est de là qu'est né le projet One Kit Girl, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur aujourd'hui.
Oui, ça me tient particulièrement à cœur, pardon, oui, parce que moi, justement, j'ai découvert la masturbation féminine ainsi que l'orgasme aussi en lui-même grâce à ce documentaire de Frédéric Baraja.
Oui.
Et je me suis dit, si moi j'ai découvert ça via un film documentaire, je veux essayer de le faire découvrir à d'autres femmes via justement ce livre, donc ce recueil de témoignages que je suis en train de créer,
oui.
Justement pour les femmes de demain ou même d'aujourd'hui, pour que ce soit moins tabou, qu'on puisse se reconnaître avec différents témoignages, avec les différentes envies que certaines femmes peuvent avoir aussi, parce qu'il y a aussi des tabous chez les envies de chacune. La découverte de soi aussi, qui est très importante, savoir comment nous sommes formés, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans le milieu de la masturbation, du plaisir de soi, et l'atteinte de l'orgasme aussi.
Est-ce que vous saviez, Sophie, que dans un pays comme l'Indonésie, par exemple, on parle de tabou aujourd'hui, de frontières, de morale, donc de religion, que la masturbation est punie par la peine de mort. On voit combien aujourd'hui nos sociétés, hein, qu'elles soient en Asie ou ici en Occident, on voit combien la masturbation reste un sujet tabou. Donc ce projet de One Kit Girl a beaucoup d'importance pour vous, mais il en a beaucoup aussi pour bien d'autres femmes, on le voit, qui traversent peut-être la même période que vous avez traversé à un moment. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sophie, cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. N'hésitez pas à nous faire signe lorsque votre ouvrage sera publié, surtout. Hein. On en reparlera ici sur cette même antenne. Dans quelques instants, nous accueillerons Jessica. Elle pratique le libertinage depuis une dizaine d'années et elle va nous expliquer comment elle y est arrivée.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sophie. On a également envie de vous entendre. Vous avez réussi à faire tomber les barrières de votre sexualité. Vous avez explorer votre propre plaisir, le standard d'Europe 1 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
De sa compagne, de son compagnon dans l'intimité pour son propre plaisir, I'm slave for you, dit Britney Spears, la domination, mais aussi le libertinage ou le langage cru. On parle des tabous, des pratiques sexuelles. Venez échanger avec nous, 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et justement, pour parler de ce libertinage auquel nous avons consacré déjà une émission, nous accueillons maintenant Jessica sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jessica, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jessica?
J'ai 36 ans et je vous appelle du sud de Vendée.
D'accord. D'où exactement, excusez-moi ?
De Fontenay-le-Comte.
De Fontenay-le-Comte, d'accord. Alors,
voilà.
Comme je le disais, nous avons déjà consacré une émission au libertinage et c'est quelque chose que vous, Jessica, vous connaissez bien, car il y a 10 ans, vous avez voulu tenter l'expérience alors que vous étiez célibataire. Qu'est-ce qui vous a attiré tout à coup dans cette pratique ?
Eh bien, je sortais d'une relation assez longue. Et c'est vrai que pendant cette relation, je n'étais pas assez satisfaite sexuellement. J'avais en moi des désirs et j'avais envie, après cette séparation, de pouvoir les assouvir.
Oui.
Les découvrir, ce qu'on pouvait offrir de nos jours, quoi.
Oui.
Et donc, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont ouvert cette voie. Et j'ai pu tester les clubs libertins,
oui.
les saunas libertins, j'ai pu en étant célibataire, enfin en étant femme seule.
Oui.
Et c'est vrai que j'avais peur de faire le pas, parce que c'est comme on dit, c'est assez tabou. Et d'être femme seule, j'avais peur d'être jugée ou de rencontrer des personnes que je connaissais.
Oui, et ça n'a pas été le cas, justement. Non, vous avez découvert un milieu très, très libre ouvert, et très ouvert. Ouais.
Voilà, ouais. Oui. Et quelque chose qui était des endroits qui étaient propres, sains, éclairés, pas comme les gens pensent que c'est assez lugubre, ouais, petit, ouais. On pense que c'est crade, ouais. Que les gens nous sautent dessus comme ça. Et non, la femme est vraiment libre, voilà, respectée. C'est elle qui déclenche les choses et c'est elle qui dit oui ou non. Et tant qu'elle n'a pas dit oui ou non, il se passe rien. Mais ça reste très, très courtois. Les gens sont très bien élevés. Et, et voilà, c'était vraiment des stéréotypes à l'époque.
Il y a beaucoup de clichés hein, autour de ce milieu libertin. Et comme vous l'évoquez, une fois qu'on y va, on découvre que c'est un milieu extrêmement courtois et justement où il y a un très grand respect vis-à-vis des femmes. On l'entendra dans la suite de cette émission à nouveau, mais comme l'évoquait Alex tout à l'heure en début d'émission, il y a vraiment un consentement qui est respecté.
Oui, c'est vrai que on sent le regard sur nous des couples qui veulent nous aborder et il faut pas être timide, il faut essayer de parler aux gens, c'est des gens vraiment qui viennent là pour le même but et ou pas, ou juste pour observer d'autres couples, ou pour donner du piment dans leur couple, ou ils veulent ajouter peut-être une femme à leur couple pour ce soir, pour la soirée. C'est vraiment aussi pour passer du bon temps et de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit.
Vous étiez célibataire à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé un compagnon ?
Tout à fait, dans le milieu du libertinage, sur un site libertin.
D'accord, donc vous pratiquez tous les deux.
Voilà, tout à fait. En fait, je pense que je n'aurais pas pu retomber avec un compagnon dit simple. Ouais, il n'aurait pas été ouvert sur ce sujet. Et tous les deux, nous avons des règles et nous avons un respect de nos envies. Et la communication est très, 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 très importante pour nous. Pour dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, ce qu'on ne veut pas.
Ouais. Le respect, toujours. Le respect, le partage, et comme vous le dites, une grande communication. Vous aviez peur que cela se sache à votre travail, et pourtant ça s'est su. Comment vos collègues l'ont-ils pris ?
Eh bien, c'est vrai que moi je travaille en cuisine, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de sexe avec les garçons, je suis la seule femme. Et c'est vrai que, bon, ils ont toujours su que j'aimais rigoler sur ces choses, j'étais assez ouverte sur le thème. Et c'est vrai que quand quelqu'un a su et a raconté à tout le monde, ils n'ont pas été tellement surpris. Mais en cuisine, j'ai eu après plus de sous-entendus, comme si tu veux pas coucher avec moi, ou des choses assez, puériles. Donc, j'ai pris sur moi, mais...
Nathalie Giraud-Desforges, je l'évoquais tout à l'heure, lorsque des femmes évoquent leur sexualité, lorsqu'elles prennent ce risque, elles se voient taxées de nombreux noms d'oiseaux, ce qui n'est pas la même chose pour les hommes. Donc on voit par cet exemple que vous nous donnez, Jessica, que voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la mentalité qui entoure le sexe et justement cette morale. Parce que finalement, le tabou autour du libertinage est très hypocrite, parce que beaucoup rêveraient de pratiquer comme cela le sexe et on n'ose pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, je suis tout à fait d'accord. J'ai rencontré en tant que femme seule beaucoup d'hommes qui étaient mariés et qui ne voulaient pas briser leur mariage. Mais à côté, avaient ces envies. On les retrouvait dans les clubs, en déplacement. On les retrouvait sur des sites pour pouvoir coucher. Et ils m'expliquaient que finalement, ils étaient mariés, qu'ils avaient peur d'en parler à leur femme. Et je leur disais, mais il faut en parler, il faut parler avec sa compagne. Il faut pas... elle veut pas et tout ça, mais... C'est assez tabou dans le mariage et je sais pas, ils ont peur
C'est encore la morale, c'est encore on parle aujourd'hui de cette sexualité débridée qui est sous le coup des tabous et d'une moralité qui étouffe l'envie d'avoir envie de parler. Et que c'est vrai que l'hypocrisie qui entoure toutes les envies que crée ce milieu du libertinage, devrait disparaître et on devrait un petit peu plus se lâcher. Mais que voulez-vous ? La société est comme ça. Merci beaucoup Jessica pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Ernest. Il a découvert ce que l'on appelle le désir prostatique, une pratique encore très tabou socialement, on va le voir.
Europe 1.
Vous avez peur que vos pratiques sexuelles soient mal comprises, vous avez peur d'être jugé. Comment ne plus se laisser brider par certains tabous sexuels ? On vous écoute au 3921 sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous des tabous du sexe, se libérer des interdits, vivre pleinement ses envies. Vous vous êtes laissé tenter, vous nous racontez votre histoire au 39-21. On écoute Oshi avec Je vous trouve un charme fou sur Europe 1. Oshi avec Je vous trouve un charme fou sur Europe 1. Vous vous êtes laissé séduire par d'autres pratiques sexuelles. Comment se libérer des tabous du sexe ? Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Ernest. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Ernest.
Bonjour, merci beaucoup.
Je vous en prie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Ernest ?
Alors, moi j'ai 30 ans et j'habite à Paris.
D'accord. Alors, avec vous, on va aborder quelque chose qui peut être tabou chez les hommes, le désir prostatique. On dit que c'est le point G masculin, pourtant c'est quelque chose qui semble déranger. Est-ce que cette pratique a toujours été évidente chez vous et vos compagnes ? Et comment y êtes-vous arrivé ?
Alors, cette pratique n'a pas été évidente dès le départ, loin de là. Mais par contre, moi, depuis que je suis enfant, la sexualité a toujours été normale dans ma famille. On en a toujours discuté. Donc, il n'y avait pas de barrière à ce niveau-là.
Oui.
Et je pense que ça demande une certaine ouverture, un certain questionnement.
Oui.
Et c'est venu au fur et à mesure de la construction de ma sexualité avec des partenaires... Avec des partenaires différentes, mais ça a mis quelques années.
D'accord. Lorsque vous évoquez votre enfance et une sexualité déjà présente, vous évoquez des parents qui osent vous parler de sexualité et vous font une sorte d'éducation. D'accord.
Oui, mais la sexualité fait tellement partie de la vie que ça a toujours été pris comme ça par mes parents. Et ils ont toujours parlé ouvertement de sexualité devant nous. On les a toujours entendu faire l'amour et ils nous disaient bah, « c'est normal, c'est parce qu'on s'aime ».
D'accord.
Donc du coup, enfant, on s'est toujours tout de suite dit avec mes frères et sœurs que ah, bon, bah, voilà, c'est quelque chose de totalement normal. Et le discours a toujours été, même dans la petite enfance, « ok, si tu veux te caresser, si tu veux te toucher, c'est normal ». Mais c'est quelque chose de privé. Donc on a toujours eu un rapport assez... On va dire sans rapport de force justement à la sexualité. C'est plutôt vers l'adolescence où ces rapports de force arrivent avec le collège, le lycée où justement on va mettre un peu des pressions, des clichés comme un homme ne doit pas se toucher à l'anus parce que ça fait péder, etc. C'est là que les pressions arrivent, mais voilà, moi j'avais une bonne base en tout cas pour pouvoir apprécier la sexualité de manière un peu moins de pression.
Oui, et c'est assez exemplaire ce dont vous parlez, hein, à travers des parents qui parlent normalement, je dirais, de quelque chose qui est dans nos vies, hein, qui est au cœur de nos vies. C'est bien d'avoir eu des parents, on le sent. Qui parlait tout à fait librement de sexe. Vous avez dû d'ailleurs sentir quand vous arriviez au collège, comme vous l'évoquez, le changement, le choc thermique avec les copains dont les parents, pour qui les parents c'était des tabous, le sexe.
Oui. Surtout quand des copains me disaient mais moi mes parents, je ne peux même pas les imaginer en train de faire l'amour. Donc c'est vraiment qu'il y a une grande barrière.
Oui, oui.
Ce qui est génial quand on a eu cette éducation, c'est qu'à l'âge où tout le monde se pose des questions sur la sexualité et que c'est un grand flou, Ah ben oui, mais nous on sait déjà. Enfin moi je savais déjà, donc on peut se concentrer sur autre chose, oui. Sur les rapports humains, sur les. C'est un petit peu la même chose avec avec l'orgasme prostatique et l'orgasme anal. Bon, quand on dit orgasme, on dit d'abord une pratique et un laisser aller surtout. Oui. Et se laisser aller, c'est quelque chose que se permettent pas beaucoup d'hommes, puisqu'ils ont beaucoup la pression de la performance, de c'est eux qui doivent commencer puis terminer un rapport, ils doivent prendre en charge, on a une espèce d'impression de prise en charge, alors que justement se laisser caresser, c'est se laisser aller, c'est de se décharger de toute cette pression là, et donc du coup c'est décentrer la relation sur la pénétration,
oui.
Et ouvrir tout un champ d'aide possible qui est plus dans qui est beaucoup plus serein on est dans ce laisser aller, on a plus tendance à se dire ah mais attends, mais moi si je me laisse aller comme ça et l'autre personne être plus curieux envers l'autre je trouve que ça implique un rapport beaucoup plus sain et serein.
Oui,
à partir du moment où serein, oui.
Serein est le mot, parce que finalement on apprend très vite aux hommes à être mécaniques. Hein. On leur dit que c'est à eux de déterminer l'acte sexuel, hein, et son début comme sa fin. C'est comme ça que finalement on est moins sous pression. On écoute ce que vous nous dites et c'est vrai que là on sent un vrai partage et que votre compagne est elle aussi. Elle est dans l'acte sexuel. Elle est aussi importante que vous. En tout cas, c'est comme ça que j'entends les choses.
Complètement, mais d'ailleurs, c'est quand on se laisse caresser, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont pas l'habitude, qui n'arrivent pas ou qui et ça met vraiment les rapports sous un autre jour qui est beaucoup plus dans le partage et on sent, moi en tout cas, je sens d'expérience avec mes partenaires que il y a aussi une baisse de pression, chez elles. Parce que faire l'amour, ça ne veut pas dire forcément la pénétration, ça veut dire beaucoup de caresses, et donc du coup, ça instaure un lien plutôt positif entre les personnes.
Merci beaucoup Ernest pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Alex, à Sophie, à Jessica de nous avoir appelés et à Nathalie Giraud-Desforges pour ses éclairages. Les tabous autour du sexe sont nombreux, en cause la religion, la morale, le fait que l'acte sexuel a été longtemps considéré comme un acte reproductif. Y trouver son plaisir, tenter de nouvelles pratiques, explorer d'autres approches choque encore certains et ça peut être mal vu. Il semble important d'éduquer à la sexualité de manière ludique, de ne pas juger chacun sa pratique tant qu'elle est respectueuse et consentie. Si vous vous posez des questions sur votre propre sexualité ou si vous ressentez certains blocages, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un sexologue qui vous mettront sans doute sur le début d'une bonne voie. Vous pouvez bien évidemment continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
L'émission se poursuit sur Facebook via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel, et puis dès ce soir et tout ce week-end, si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas et vous échangez avec Sabine Marin, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de notre rapport à l'argent. Que dit-il de nous ? Si l'argent a été un problème dans votre couple ou dans votre famille, si vous avez toujours eu peur de manquer d'argent, si vous avez évolué dans votre rapport à l'argent, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci mille fois à Katia Maxime, à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation et à vous, ma chère Ambline.
Merci.
Chaque semaine, vous êtes tous les cinq autour de moi à m'accompagner et faire que cette émission existe et qu'elle vous ravisse, vous qui nous écoutez chaque jour. J'étais ravi de passer cette heure avec vous. Il est maintenant l'heure de vous laisser avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs que vous allez retrouver dans quelques minutes, dès 16h sur Europe 1. Des tontons flingueurs plutôt de haut vol aujourd'hui, mon cher Carl.
Olivier, aujourd'hui je suis accompagné du créateur du guide du routard. Il s'agit de Philippe Blaguen et l'autre, eh bien, c'est Alexandre Jardin et son roman vrai.
Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et bien évidemment, je vous donne rendez-vous à lundi 15h. Au revoir.